Jacques Lacan. Séminaire L'envers de la psychanalyse. Le 8 avril 1970.
Pour moi, j'ai fait la trouvaille d'un signal à la personne qui le signal que j'ai trouvé c'était venir de Copenhague, le Céline dont je vous ai parlé. Est-ce que vous alliez? C'est à savoir. Ce petit livre de 1922, aussi bien par un frère porté de la plume de Céline quelques rejets, et qui est ce livre autour de quoi preuve fait tourner son assurance que Moïse a été tué. Bien sûr, l'intérêt de l'avoir, je ne sache pas que, à part Jones, peut-être un ou deux autres, beaucoup de psychanalystes qui soient intéressés. Il est clair que Céline, dans son texte, mérite d'être examiné. Examiné en ceci que le Freud a considéré qu'il faisait le poids, si je puis dire. C'est bien là-dessus, naturellement, qu'il convient de suivre pour mettre à épreuve cette considération. Ceci me semble dans la ligne de ce que j'avance cette année de l'envers de la psychanalyse. Mais, comme il n'y a qu'environ 5 jours que j'ai ce livre écrit en allemand, forcé, beaucoup moins aéré que ce à quoi nous habituent les textes de Freud, vous concevrez que, malgré l'aide, faut bien voulu me donner pour ça un certain nombre de rates grands effets. Eh bien, je ne sois pas prêt encore aujourd'hui à vous en faire un compte-rendu au moins qui me satisfasse. D'autre part, il se trouve que j'ai été sollicité, ça je veux dire que ce n'est pas la première fois, c'est extensif cette sollicitation, de répondre à la radio belge pour la nommer, monsieur par un homme qui, à vrai dire, s'est attiré d'une estime, monsieur Georgin pour le nommer, s'est assuré de mon estime de me revoir remis à long texte qui au moins donne cette preuve que lui, contrairement à bien d'autres, il a lu mes écrits. Il en a, mon Dieu, il dirait ce qu'il a pu, mais ce n'est pas rien à tout prendre. Véritablement, en fait, on a été plutôt flatté. Ce n'est pas certes pour me donner plus de penchant à cet exercice qui consiste à se faire enregistrer à la radio. Ça perd toujours beaucoup de temps, néanmoins. connaissant qu'il est aménagé les choses pour que ça se passe de la façon la plus courte, c'est vrai que celui qui ne va peut-être pas y céder, par contre, c'est lui. Étant donné que pour répondre à ces questions, dont je vais vous donner trois exemples, je n'ai cru pouvoir mieux faire que non pas de me livrer à l'aspiration du moment, à ce frayage qui fait ici chaque fois que je suis en face de vous, en somme, mais nourri d'abondantes notes, et qui passe, mon Dieu, parce que vous me voyez en proie à ce frayage. C'est même peut-être la seule chose qui justifie notre présence ici.
C'est un oiseau.
Les conditions quand même sont évidemment différentes quand vous parlez pour quelques dizaines de mille, 17 voire centaines d'auditeurs. Auprès duquel le fait le texte abrupt de se présenter sans support de la personne peut causer d'autres effets. Néanmoins, je me refuserai en tout cas à donner autre chose que ces textes éjectés. C'est faire donc à cette condition grande confiance. Car vous le verrez, les questions qui sont posées sont forcément de l'intervalle de ce qui se produit d'une articulation construite et ce qu'on attend, que j'appellerais une conscience commune, et une conscience commune, ça veut dire aussi une série de formules communes. Ce langage que déjà les anciens, les Grecs, avaient appelé dans leur langue la koiné. Oui. Je vais traduire ça tout de suite en français, à le transcrire directement. La couine est sa couine. Je ne méprise pas du tout la couine. Simplement, je crois qu'elle n'est pas défavorable à ce qu'on y produise quelques effets de précipitation. À y introduire, justement. Le discours le plus abrupt qu'il soit. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pas seulement pour me suppléer dans l'effort, ça me sera, croyez-le, un effort beaucoup plus grand de vous lire ces textes, que de procéder comme je fais d'habitude, je vais vous faire part de mes réponses à trois de ces questions. Et pour ne pas tarder, je vais vous articuler la première, qui est celle-ci. Dans les écrits, dit-on, vous affirmez que la preuve anticipe, sans s'en rendre compte, les recherches de Saussure et celles du cercle de Prague. Pouvez-vous vous expliquer sur ce point? C'est ce que je fais donc, non pas à l'improvisade, comme je vous en ai prévu, en répondant que votre question me surprendit d'emporter une pertinence qui tranche sur les prétentions à l'entretien que j'ai à écarter. C'est même une pertinence redoutable. À 2 degrés, plutôt. Mais prouver avoir lu les étrusques apparemment on tient par pour nécessaire à obtenir de m'entendre. Vous y choisissez une remarque qui implique l'existence d'un autre mode d'information que la médiation de masse, que Freud anticipe Saussure, n'implique pas qu'un bruit est passé du premier au second. De sorte qu'anticipé, vous me faites répondre avant que j'en décide. C'est ce que j'appelle me surprendre. Partons du terme d'arrivée. Saussure et le cercle de Prague produisent une linguistique qui n'a rien de commun avec ce qui avant s'est couvert de ce nom. Retrouva-t-elle ses clés entre les mains de stoïciens, mais quand faisait-il? La linguistique, avec Saussure et le cercle de Prague, s'institue une coupure qui est la barre posée entre le signifiant et le signifié pour qu'il prévale la différence dont le signifiant se constitue absolument, mais aussi bien effectivement s'ordonne d'une autonomie qui n'a rien à envier aux effets de cristal. Pour le système du phonème, par exemple, qui en est le premier succès de découverte. On pense étendre ce succès à tout le réseau du symbolique en admettant de sens qu'à ce que le réseau en répond et de l'incidence d'un effet, d'un contenu, non. C'est la gageure qui se soutient de la coupure inaugurale. Le signifié sera ou ne sera pas scientifiquement pensable selon que tiendra ou non un champ de signifiant qui, de son matériel même, se distingue d'aucun champ physique par la science obtenue. Ceci implique une exclusion métaphysique à prendre comme fait de désert. Aucune signification ne sera désormais tenue pour aller de soi. Fasse clair dans toutes les jours, par exemple, que les stoïciens nous ont devancé. J'ai déjà interrogé à quel point. Tu sais, j'allais à négliger certaines reprises de mots, je dirais sémiotiques, toute discipline qui part du signe pris pour objet, et pour marquer que c'est là ce qui faisait obstacle à la saisie comme telle du signifiant. Le signe suppose le quelqu'un à qui il fait signe de quelque chose. C'est le quelqu'un dont l'ombre a occulté l'entrée dans la linguistique. Appelez ce quelqu'un comme vous voudrez, ce sera toujours une sottise. Le signe suffit à ce que ce quelqu'un se fasse du langage appropriation comme d'un simple outil. De l'abstraction, le langage n'est plus que support, comme de la discussion moyen, avec tous les progrès de la critique, que dis-je, de la pensée à la critique. Il me faudrait anticiper, reprenant le mot de moi à moi sur ce que je compte introduire sous la graphie de la chose, L apostrophe A, C, H, O, etc., pour faire sentir en quel effet en position la linguistique. Ce n'est pas un progrès, une régression plutôt. C'est ce dont nous avons besoin contre l'unité d'obscurantisme. Déjà ce sous-dauphin de prévenir la chose. Personne ne semble reconnaître autour de quoi l'unité se fait, et qu'autant du quelqu'un qui recueillait la signature des choses, signatura rerum, on ne présumait pas assez de la bêtise cultivée pour oser inscrire le langage au registre de la communication. Le retour à la communication protège, si j'ose dire, les arrières de ce que périme la linguistique. qu'en y couvrant le ridicule qui s'ouvre de ce vaisselle que la postière leur prend. C'est à savoir ce qui, dans l'occultation du langage, ne faisait figure que de mythe, à s'appeler télépathie. Enfant perdu, mendigo de la pensée que ce qui se targuait de la transmission sans discours, il arrive pourtant le mythe, ce mythe a captivé Freud, qui n'y démasque pas le roi de cette cour des miracles dont il annonce le nettoyage. Miracle, c'est bien le cas de le dire, quand tous remontent à celui premier à s'opérer, de ce que l'on télépathise, du même bois dont on active, contrat social en somme, et fusion communicative, les promesses du dialogue. Quoi ? Tout homme, qu'il sait ce que c'est, est mortel, ah, sympathisons d'être mis dans la même boîte. Parlons de tout, c'est le cas de le dire, de tout ensemble, sauf de ce qui habite la tête du syllogiste à mettre Socrate dans le coup, car de là il ressort que sans doute la mort est administrée, comme le reste, et par et pour les hommes, mais sans qu'ils soient du même côté pour ce qui est de la télépathie que véhicule une télégraphie dont le sujet ne cesse pas d'embarrasser chaque fois qu'on vient à ce carrefour. Que ce sujet soit peu communicable, soit bien déterminé, et ce dont la linguistique prend force, et jusqu'à mettre le poète, oui, le poète dans son sac, car le poète se produit d'être qu'on me permette de traduire celui qu'il démontre, mon ami Jacobson, manger des vers qui trouvent entre eux leur arrangement sans se soucier, c'est manifeste, de ce que le poète en a su. D'où la consistance chez Platon de l'ostracisme quand il frappe le poète en sa république et de la vive curiosité qu'il montre dans le cratyle pour ces petites bêtes qui paraissent être les mots à n'en faire qu'à leur tête. On voit combien le formalisme était précieux à soutenir les premiers pas de la linguistique. Mais c'est tout de même de trébuchement dans les pas du langage, dans ce qu'on appelle la parole, qu'elle a pris son élan. Que le sujet ne soit pas ce qu'il sache ce qu'il dit, quand bel et bien se dit quelque chose par la touche où on le loge, certes, mais aussi bien dans les panoplies d'une conduite qu'on met à son compte, dans la cervelle dont il ne cède qu'à ce qu'elle dorme. C'est l'organe s'avérant de tenir sa portée subjective que de ce qu'il règle le sommet. Voilà ce que Freud dévoile comme l'inconscient. Par mon passage en ce monde, au nom de Lacan, aura consisté à articuler que c'est ça et que ce n'est rien d'autre. N'importe qui peut s'en assurer maintenant, rien qu'à le lire. N'importe qui opère selon ses règles, la psychanalysée doit s'y tenir, sauf à le payer de choir dans la bêtise. Taylor a énoncé que Freud anticipe la linguistique, je dis moins que ce qui s'impose, et qui est la formule que je libère maintenant, l'inconscient et la condition de la linguistique. Sans l'éruption de l'inconscient, pas moyen que la linguistique sorte du jour douteux dont l'université, au nom des sciences humaines, fait encore éclipse à la science. Couronnée à Kiev par les soins de Baudouin Courtenay, elle y fut sans doute restée. Mais l'université n'a pas dit son dernier mot. Elle va de ça faire sujet de thèse. Influence sur le génie de Raymond de Saussure, du génie de Freud, et montrer d'où vient au premier le vent du second, avant qu'existât la radio. se faire comme si elle ne s'en était pas passée toujours, nous rassurer autant. Et pourquoi son sud se serait-il rendu compte, pour emprunter les termes de votre citation, dis-je à M. Georges, mieux que Freud lui-même de ce que Freud anticipait, notamment la métaphore et la métonymie lacanienne, lieu où Saussure, Genuit, Jacobson. Si Saussure ne sort pas les anagrammes qu'il déchiffre dans la poésie saturnienne, ce qu'il en sait la portée vraie, la canaillerie ne le rend pas bête, c'est parce qu'il n'est pas analyste. Dans cette position, par contre, les mauvais procédés dont s'habille l'infatuation universitaire ne vous frappent pas l'Europe. Il y a là comme un espoir. Et le jette droit dans une gourde comme de dire que l'inconscient est la condition du langage. Quand il s'agit de se faire auteur au dépens de ce que j'ai dit, voire seriner aux intéressés, à savoir que le langage est la condition de l'inconscient. Je ris encore du procédé devenu là stéréotype au point que deux autres, mais pour l'usage interne d'une société, que sa bâtardise universitaire a tué, ont osé définir le passage à l'acte et l'acte in out très exactement des termes que je leur avais proposés pour les opposer l'un à l'autre, mais simplement à inverser ce que j'attribuais à chacun. De toute façon, pensait-il de s'approprier ce que personne n'avait su en articuler avant. Si je défaillais maintenant, je ne laisserai d'œuvre que ces rebuts choisis de mon enseignement dont j'ai fait buter à l'information dont c'est tout dire qu'elle le diffuse. Ce que j'ai énoncé dans un discours confidentiel n'en a pas moins déplacé l'audition commune au point de m'amener un auditoire qui m'en témoigne d'être stable en son énormité. Je me souviens de la gêne dont m'interrogeait un garçon qui avait assisté à la production de ma dialectique du désir et subversion du sujet devant un public fait de gens du parti seul, parmi lesquels il s'était égaré comme marxiste. J'ai gentiment, gentil comme je suis toujours, pointé à la suite de ce rebut dans mes écrits l'ahurissement qui fit réponse. Croyez-vous donc, me disait-il, qu'il suffise que vous ayez dit quelque chose, inscrit des lettres au tableau noir pour en attendre un résultat? Un tel exercice a porté bloquant. J'en ai eu la preuve, titre seul du rebut qui lui fit un droit pour mon livre. Les fonds de la Fondation Ford qui motivaient cette réunion d'avoir à laisser manger s'étant impensablement asséché du même coup. L'effet qui se propage n'est pas de communication de la parole à votre adresse, ceci, mais de déplacement du discours. Freud, incompris, fût-ce de lui-même, d'avoir voulu se faire entendre, est moins servi par ses disciples que par cette propagation, celle sans quoi les convulsions de l'histoire restent énigmes comme les mois du mai, dont se déroutent ceux qui s'emploient à les rendre certes d'un sens dont la dialectique se présente comme dérision. Voilà. Si vous n'êtes pas fatigué, je vais vous répondre, je vais vous énoncer ce que j'ai répondu à la deuxième question qui se formule ainsi. Vous verrez qu'elle est importante. La linguistique La psychologie et l'ethnologie ont en commun la notion de structure. À partir de cette notion, m'interroge M. Georges, ne peut-on imaginer l'énoncé d'un champ commun qui réunira un jour psychanalyse, ethnologie et linguistique? Je réponds. Et je pense que cette réponse a plus d'importance que la première impressionniste à laquelle je me suis livré. Je réponds ceci. Structure est le mot dont s'indique l'entrée en jeu de l'effet du langage. À partir de ceci, de cette pétition de principe que d'en faire une fonction individuelle ou collective, soit qui serait l'appui d'un supposé dans l'existence qui, quel qu'il soit, moi ou organisme adapté de connaissance, implique le quelqu'un dont je parlais tout à l'heure. Fonction par où donc quelqu'un se représente, si l'on peut dire, les relations qui font le réel, ce dernier terme étant posé d'une catégorie. C'est au contraire de la présence déjà dans la réalité, laquelle n'est pas catégorique, mais de la présence, non des relations au premier plan, mais des formules de la relation qui prennent corps dans le langage, que nous partons pour en suivre l'effet qui est proprement la structure. C'est ainsi qu'un discours peut dominer la réalité sans supposer consensus de quiconque, car c'est lui qui détermine la différence à faire barrière entre sujet des énoncés et sujet de l'énonciation. Rien de plus exempt d'idéalisme. Nul besoin d'autre part de parquer les structuralistes, à moins de vouloir leur faire endosser les rivages du pourrissement couvert qui va causer par l'existentialisme. N'importe qui a à se repérer de la structure. En tout cas, s'en trouvera bien. Pressentez, lui dit, ici ma réponse, à la réunion, vous vous rappelez, psychanalyse, ethnologie, je ne sais pas quoi, linguistique, à la réunion que vous me proposez. Nota, le particulier de la langue et ce par quoi la structure tombe sous l'effet du cristal dit plus haut. Le qualifier ce particulier d'arbitraire est lapsus de saussure à cause de ce qu'à contre-cœur, certes, mais par là d'autant plus offert au trait du chemin, il l'a pris à partir de ce discours universitaire dont je montre que le recel, c'est justement ce signifiant qui domine le discours du maître. De l'arbitraire. On voit que parler de corps n'est pas, quand il s'agit du symbolique, une métaphore, car le dit corps se trouve, pour le corps pris au sens naïf, une plus déterminante. Le premier fait le second de s'y incorporer, d'où l'incorporel. Qui reste marqué le premier du temps d'après son incorporation. Rendons justice aux stoïciens d'avoir su de ce terme, l'incorporel, signé en quoi le symbolique tient au corps. Incorporel sont ce que je vais dire, à savoir la fonction, non pas celle du c'est cette réalité de la mathématique. L'application de même effet à faire réalité de la topologie, l'analyse en un sens large pour la logique. Mais c'est incorporé que la structure fait l'affect, ni plus ni moins. Affect seulement à prendre de ce qui de l'être s'articule. N'y ayant qu'être de fait, soit qu'être dit quelque part. Par quoi savait que du corps, il est sûr qu'il soit mort ou vif. Qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme l'être parlant, la sépulture, soit où d'une espèce s'affirme, au contraire d'aucune autre, le corps mort garde ce qui au vivant donnait le caractère corps. Corps qui habitait la parole, le langage corpsifiait. La zoologie peut partir de la prétention de l'individu à faire l'être du vivant, ne sait pour qu'il en rabatte, seulement qu'elle le poursuive au niveau du politique. Le corps à le prendre au sérieux est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Dès cette marque, il est support de la relation, non éventuelle mais nécessaire, car c'est encore la supporter que de s'y soustraire. D'avant toute date, l'oise désigne le lieu dit de l'autre avec le signe du grand A par l'acte. De l'un en moins, le lit est fait à l'intrusion qui avance de l'extrusion, c'est le signifiant R. Ainsi ne va pas toute chair. Et seul qu'emprunt le signe à les négativer montre que ce que corps s'en sépare, les nuées aux supérieures de leur jouissance, lourdes de foudre à redistribuer corps et chair. Répartition peut être moins comptable, et dont on ne semble pas remarquer que la sépulture antique y figure cet ensemble même dont s'articule notre plus moderne logique. L'ensemble vide des ossements est l'élément irréductible dont s'ordonnent autres éléments les instruments de la jouissance. Collier, gobelet, armes, plus de sous-éléments à énumérer la jouissance qu'à la faire rentrer dans le corps. Ai-je animé la structure? Assez, je pense, pour des domaines qu'elle unirait à la psychanalyse, annoncer que rien n'y destine les deux que vous dites spéciales. Linguistique peut définir le matériel de la psychanalyse, voire l'appareil de son opération. Elle met semblant d'où se produit ce qui la rend effective, soit ce dont à l'articuler comme l'acte psychanalytique, je pensais éclairer plus d'un autre acte. Un domaine ne se domine que d'un opérateur. L'inconscient peut être, comme je le disais, la condition de la linguistique. Ceci ne donne à la linguistique pas la moindre prise sur lui. J'ai pu l'éprouver de la contribution que j'avais demandée au plus grand des linguistes français pour en illustrer le départ d'une revue de ma façon, que ce fait j'ai voulu plus spécifier dans son titre, la psychanalyse, qu'elle s'appelait. Rappeler à ceux qui en ont fait bon marché. De cette demande, le linguiste, j'avais espéré un pas dans le problème des mots antithétiques, dont on pense bien que je ne m'étonne pas que Freud l'ait introduit. Si le linguiste ne peut faire mieux, comme il parut, de formuler, de connaître, de signifier et exige un choix dans l'antithèse, ceci doit donner aux gens qui parlent l'arabe ont beaucoup à faire avec de tels mots, autant de mal qu'à répondre à une montée de fourmilière. Il n'y a pas moindre barrière du côté de l'ethnologie. Un enquêteur qui laisserait son informatrice, la digère, lui compter fleurette de ses rêves se fera rappeler à l'ordre s'il les met au compte de ce qu'on appelle le terrain. Et le censeur, ce faisant, comme il l'a fait, ne me paraîtra pas utile les Strauss lui-même, marqué mépris de mes plateformes. Où irait le terrain s'il se détrempait d'inconscient? Ça n'y ferait, quoi qu'on en rêve, nul effet de forage, mais flaque de notre cru. Car une enquête qui se limite de sa définition au recueil d'un savoir, c'est un savoir de notre tonneau et nous la nourririons. Une psychanalyse elle-même, qu'on n'attend pas de recenser les mythes qui ont conditionné un sujet de ce qu'il ait grandi au Togo ou au Paraguay. Car la psychanalyse, cela je vous l'ai déjà fait remarquer ici, s'opère du discours qui la conditionne et que je définis cette année à la prendre par son envers. On obtiendra ces deux choses-là même, pas d'autre mythe que ce qui en reste en notre discours, l'est-il très bien. Du matériel dont se fait l'analyse du mythe, écoutons Lévi-Strauss énoncer qu'il est intraduisible, ceci à bien l'entendre, car ce qu'il dit littéralement, c'est peu importe en quelle langue ils sont recueillis. Ils seront toujours eux-mêmes analysables de ce théorie des grosses unités, c'est le terme de Lévi-Strauss, dans une mythologisation définitive, les articulera. On saisit là le miracle d'un niveau commun avec ce que j'appellerais l'universalité du discours psychanalytique. Mais, et du fait de qu'il démontre les strokes en l'occasion, sans que l'illusion s'introduise, car ce n'est pas d'un jeu de mitaine qu'opère la psychanalyse. Ne puisse se passer que dans une langue particulière, ce qu'on appelle une langue positive. Plus même à jouer un cours d'analyse de la traduction. Il fait garantie qu'il n'y a pas de métalangage, selon ma formule. Le fait de langage ne suit produit que du cristal linguistique. Son universalité n'est que la topologie retrouvée de ce qu'un discours s'y déplace. Ce discours spécifié de ce que la mythologie s'y réduise à l'extrême. Ajouterais-je que le mythe dans l'articulation de Lévi-Strauss soit la seule forme ethnologique à motiver. Votre question, dis-je à l'orgin, la réunion, le mythe donc, dans cette seule articulation, refuse tout ce que j'ai promis de l'instance de la lettre dans l'inconscient. Il n'opère le mythe, ni de métaphore, ni même d'aucune métonymie. Il ne condense pas. Il explique, il ne déplace pas, il l'offre, même à changer l'ordre du temps. Il ne joue qu'à combiner ses unités lourdes, le complément à assurer la présence du couple démontre le poids d'un savoir. Ce savoir est justement ce que ruine l'apparition de sa structure. Ainsi, dans la psychanalyse, parce qu'aussi bien dans l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien, ni la femme de l'homme. Au phallus se résume le point de mythe dont le sexuel est impliqué dans la passion signifiée. Que ce point paraisse ailleurs se multiplier. Voilà ce qui fascine spécialement l'universitaire dans le discours duquel ce point fait défaut. Tout procède le recrutement des novices de l'ethnologie. Se marque un effet d'humour. Noir, bien sûr, à se peindre de faveur de secteur. Ah, faute d'une université qui serait ethnie, allons d'une ethnie vers université. La gageure de cette pêche qui définit le terrain comme le lieu où faire écrit d'un savoir dont l'essence est de ne pas se transmettre par écrit. Désespérant de voir jamais la dernière classe, recréons la première. L'écho de savoir qu'il y a dans la classification. Le professeur ne revient qu'à l'aube, dirais-je en contrepoint de Hegel. Ça fait l'histoire de la chouette, très juste. Je garderai même distance à dire la mienne à la structure, au nom de ce que votre question met en jeu de la psychanalyse. D'abord, que sous prétexte que j'ai défini le signifiant comme ne l'a osé personne, on ne s'imagine pas que le signe ne soit pas mon affaire. Bien au contraire, c'est la première, ce sera aussi la dernière. Mais il fallait se détourner. Ce que j'ai dénoncé d'une sémiotique implicite, dont seul le désarroi aurait permis la linguistique, n'empêche pas qu'il faille la refaire. Et de ce même nom, puisqu'en fait, c'est de celle à faire qu'à l'ancienne nous le reportons. Si le signifiant représente un sujet, dit Lacan, pas un signifié, et pour un autre signifiant, insistons, pas pour un autre sujet, alors comment peut-il tomber au signe qui, de mémoire de logicien, représente quelque chose pour quelqu'un? C'est au bouddhiste que je pense à vouloir animer ma question cruciale, celle que je viens de poser, la chute signifiant au signe, je l'animerai d'une pâte fumée sans feu. Psychanalyste, c'est du signe que je suis avec. S'il me signale le quelque chose que j'ai à traiter, je sais d'avoir à la logique du signifiant trouvé à rompre le leurre du signe que ce quelque chose est la division du sujet, laquelle division tient à ce que l'autre soit ce qui fait le signifiant. Par quoi ? Il ne saurait représenter un sujet qu'un être un que de l'autre. Cette division répercute les avatars de l'assaut qui, telle quelle cette division, l'a affronté au savoir du sexuel, traumatiquement, de ce que cet assaut soit à l'avance condamné à l'échec pour la raison que j'ai dite. Que le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. D'où mon énonciation. Il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la structure. Ce quelque chose où le psychanalyste interprète cette intrusion de signifiant, certes je m'exprime depuis 20 ans à ce qu'il ne le prenne pas pour une chose, puisque c'est faille et de structure. mais qu'ils veulent en faire quelqu'un est la même chose, puisque ça va à la personnalité en personne, totale, comme à l'occasion chante l'ordure. Le moindre souvenir de l'inconscient exige pourtant de maintenir à cette place le quelque d'eux, avec ce supplément de Freud qu'il ne saurait satisfaire à aucune autre réunion que celle logique qui s'inscrit ou l'un ou l'autre. Qu'il en soit ainsi du départ dans le signifiant dire au signe ou trouver maintenant le quelqu'un qu'il faut lui procurer d'urgence. C'est le hic qu'il se fait naître qu'à être psychanalyste, mais aussi lacanien. Ça tient sec, bientôt tout le monde le sera. Les plans sont faits prodromes, donc le psychanalyste aussi. Il suffirait la montée au zénith social de l'objet dit par moi petit a, par l'effet d'angoisse que provoque l'évitement dont le produit de notre discours, de manquer à sa production. Que ce soit d'une telle chute que le signifiant tombe au signe, l'évidence est faite chez nous de ce que, quand on n'y sait plus à quel sens jouer, autrement dit qu'il n'y a plus de signifiant à frire. C'est ce que le saint fournit, vous savez. On y achète n'importe quoi, une bagnole notamment, à quoi faire signe d'intelligence, si l'on peut dire, de son ennui, soit de l'affect, du désir d'autre chose, avec un grand A. Ça ne dit rien du petit A, parce qu'il n'est déductible qu'à la mesure de la psychanalyse de chacun, ce qui explique que peu de psychanalystes le manient bien, même à le tenir de l'enseignement. Je parlerai donc en parabole, c'est-à-dire pour dérouter, à regarder plus près le pas de fumée, si j'ose dire. Peut-être franchira-t-on celui de s'apercevoir que c'est au feu que ce pas fait signe. De quoi il fait signe est conforme à notre structure, puisque lui promettait une fumée, plutôt le signe de ce sujet, que représente une allumette. Premier signifiant pour sa boîte. Le capulisse abordant un rivage inconnu, une fumée au premier chef laisse présumer que ce n'est pas une île déserte. Notre fumée est donc le signe, pourquoi pas du fumeur, hein, mais allons-y, du producteur de feu. Ce sera plus matérialiste et dialectique. Culisse pourtant donne le quelqu'un est mis en doute. À rappeler qu'aussi bien il n'est personne. Il est en tout cas personne à ce que s'y trompe une fat polyvelle. Mais l'évidence que ce ne soit pas pour faire signe à Ulysse que les fumeurs tentent nous suggère plus de rigueur au principe du signe, car elle nous fait sentir comme au passage que ce qui pêche à voir le monde comme phénomène, c'est que le nous-mêmes de ne pouvoir dès lors faire signe qu'au nous, soit au suprême quelqu'un, signe d'intelligence toujours, démontre de quelle pauvreté procède la vôtre à supposer que tout fait signe. C'est le quelqu'un de quelque part, de nulle part, qui doit tout manigancer. Que ça nous aide à mettre le pas de fumée sans feu au même pas que le pas de prière sans Dieu pour qu'on entende ce qui chante. Il est curieux que les incendies de forêt ne montrent pas quelqu'un auquel le sommeil imprudent du fumeur s'adresse. Et qu'il fasse la la joie phallique, l'urination primitive dont l'homme, dit la psychanalyse, répond au feu pour mettre sur la voie de ce qu'il y ait en ratio, au ciel et sur la terre, d'autres matières à faire sujet que les objets qu'imaginent votre connaissance. Les produits, par exemple, à la qualité desquels, dans la perspective marxiste de la plus-value, les producteurs, plutôt qu'aux maîtres, pourraient demander compte de l'exploitation qu'ils subissent. Quand on reconnaîtra la sorte de plus de jouir qui fait dire « ça, c'est quelqu'un », on sera sur la voie d'une matière dialectique, peut-être plus propice que la chair à partie, bien connue, à se faire le babysitter de l'histoire, que pourrait être le psychanalyste si sa passe était éclairée. Voilà ce que je réponds à la deuxième question. Les articulations entre psychanalyse et linguistique ne serait-elle pas le privilège accordé à la métaphore et à la métonymie par Jacobson sur le plan linguistique et par vous sur le plan psychanalytique? Je ne vous lirai pas la réponse que je fais à cette question parce qu'elle est d'autant plus impertinente qu'elle m'emmerde. Il y a eu assez de gargouillage sur le fait que j'ai ou non emprunté la métaphore de l'économie à Jacobson. Quand je faisais partie, je croyais quand même que les auditeurs avec quelqu'un qui savait ce que c'était Jacobson. Ils l'ont découvert dans les 15 jours, parce que je l'ai dit au sortir de rentrer. À ce moment-là, on m'a dit, relâchez à Lacan, il ne cite pas Jacobson. Après quoi, ils ont lu Jacobson, ils se sont aperçus, où ils avaient notamment la raison de citer Jacobson, qui disait quelque chose de tout à fait différent. Mais là, ils ont dit, ah, oh, mais il bouscule Jacobson, il le distord. Bon, enfin, tout ça, c'est une question 4. Vous dites que la découverte de l'inconscient aboutit à une seconde révolution copernicienne. Ça, c'est bon. Pourquoi l'inconscient est-il une notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance? Bah. Notre question va à chatouiller les espoirs teintés de fait moi-même. Qu'inspire le sens dévolu à notre époque au mot révolution. On pourrait noter son passage, ce mot, à une fonction surmoïque dans la politique. À un rôle idéal dans le palmarès de la pensée. Je note que ce n'est pas moi qui joue ici de ces résonances. Donc, seul, je le dis, la coupure structurelle peut combattre l'amortissement. Je parle des résonances. Je dis que la coupure structurelle seule peut donner un sens au mot révolution. Pourquoi ne pas partir de l'ironie qu'il y a à mettre de la révolution au compte des révolutions célestes qui n'en donne pas tout à fait la même. Qu'y a-t-il de révolutionnaire dans le recentrement autour du soleil, du monde solaire? Après tout, à entendre ce que j'articule cette année d'un discours du maître, on peut y trouver que celui-ci y clôt fort bien sa révolution, laquelle, par la boucle prise de la science, de l'épistémé que je démontre être sa visée, revient à son départ d'un signifiant maître absolu qui s'y figure du soleil. Dans la conscience commune, l'idée que Saturne autour, voilà l'héliocentrisme. Ce que j'adore, c'est Gloria a fait tout à l'heure une pause de 30, qu'elle a fait ça ce matin. Elle a écrit l'égocentrisme. Agitéo. Je trouve ça sublime. Il indique que ça tourne rond sans qu'il n'ait plus à y regarder. Maîtresse, je vous compte de Galilée l'insolence politique du roi Soleil. Les anciens, par contre, ont prouvé l'usage en quelque sorte dialectique à quoi prêtent les apparences qui résultent de la bascule de la terre sur l'écriture. Les images de lumière et d'ombre sont là propices à un discours articulé. J'en mettrais en opposition au centrisme un photocentrisme comme beaucoup moins asservissant. La métaphore que Freud prend de Copernic et à la connoter lui, si vous vous souvenez de son texte, plutôt d'un effet de chute que de subversion, vise en fait à atteindre le centrisme lui-même. Exactement. La prétention reçue d'une psychologie qu'on peut d'autant mieux dire inentamée à son époque qu'elle l'est toujours à la nôtre. La prétention de la conscience à pouvoir recenser ce dont elle dispose au registre de la représentation. Il est clair à la ligne que cette figure d'englobement parfaitement insouciante, dirions-nous, des exigences d'une topologie pour simplement qu'elle ignore, est ce qui est visé dans la métaphore. C'est à approfondir celle-ci qu'on rencontre sa pertinence, et c'est en cela que je la reprends. Car l'histoire prise au texte où la révolution copernicienne s'inscrit démontre que ce n'est pas le changement de centre qui fait son air. Au point qu'entre parenthèses, c'était pour Copernic lui-même le cadet de ses soucis. Ce retour de quoi tourne, mais justement, c'est le mot à ne pas employer. Autour de quoi gravite l'effet d'une connaissance en voie de se repérer comme imaginaire, c'est nettement. On le lit à faire avec Coiré de l'approche de Kepler, le journal, de se dépêtrer de l'idée de la forme circulaire d'être la plus parfaite, le seul convenir à l'affection du corps céleste. Introduire en effet la trajectoire elliptique, c'est faire qu'elle vit à se rapprocher du foyer occupé par le corps maître, mais aussi bien de l'autre, vide autant qu'obscure, dont elle se ralentit. Voilà où gît l'importance de Galilée. Non pas dans cette ellipse, il ne semble pas l'avoir tellement retenue, mais en tout cas ailleurs que dans l'échauffouré de son procès, dont j'ai indiqué tout à l'heure que l'enjeu est ambigu, sinon pas le parti à y prendre. Son importance est dans les premiers pas qu'il fait faire. À la recherche sur la chute des corps dont va s'éclairer cette ellipse. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a quelque chose dans l'histoire à illustrer de la façon la plus opaque d'ailleurs, la définition que j'ai donnée de la structure, c'est la formule qu'enfin Newton met à la clé de cette chute des corps, en expliquant par elle définitivement le chemin des astres. Car c'est aussi la présence en tout point du réel, autrement dit en chaque élément de masse, de la formule prise en elle-même de l'attraction, soit une équation du second degré. Car c'est ça.
L'amour impossible a étouffé à plus penser que
foutre en l'air la surprise et le scandale qu'attestent les contemporains de Newton
lorsque chaque point du monde soit averti à chaque instant des masses d'enjeux pour l'attirer aussi, aussi loin que ce monde s'est accompli, faut-il ici rappeler que le champ de gravitation se distingue par sa faiblesse des autres champs électromagnétiques, par exemple, mis en jeu par la physique, qui résiste en outre à l'idéal presque réalisé, pourtant, l'unification du champ. Quoi qu'il en soit, du recul d'esthétique transcendantale, dans ces termes au sens de temps, que constitue la rectification einsteinienne dans son époque, conclure l'espace et dans sa justification, nécessité d'une transmission que la vitesse limitée de la lumière ne permet pas d'annuler. Il reste que la révolution newtonienne s'est affirmée d'être impensable, c'est ce qu'admet Newton lui-même de l'hypothèse non fingo, et qu'elle confirme ma formule que l'impossible s'élève. Inutile de souligner que dans le l'aime, L-E-M à l'unisson, c'est de la même formule, cette fois réalisée en appareil qu'il s'agit, d'où je souligne l'acosmisme de la réalité présente. Tout cela nullement pour dire que Newton soit à mettre au chef du structuralisme, ni même au compte de la structure, mais d'abord que notre science se trouve dans le champ des exacts, déjà articulé de ce dont le problème se pose dans le champ des conjecturales, pour souligner ensuite la forme qu'on peut dire inéducable, qui dans la théorie de la connaissance se spécifie de la psychologie. Car si, comment le prétend, Kant se motive d'une prétendue cosmologie à rénover d'après Newton, comment se fait-il que rien ne s'y articule de ce que Newton produit de la formule de la relation comme intruse dans le réel. La chose en soi, par contre, celle qu'il faut attendre, c'est tout bonnement rien d'autre que la psychologie qui la s'énonce tout comme de poche, voire de l'envers. Ainsi, demain sera le moi autonome ramené vie en tête par la clique de New York en défis de la révolution freudienne. Éclairons maintenant.
Coupure milieu de bande.
Monde à de soi-même. Il n'est pas étonnant que les formes de cette connaissance se définissent comme a priori, puisque ce monde, il est de ce fait total. Mais qu'ont-elles à faire ces formes avec l'équation de Newton et ce qui s'en déduit comme accélération? Rien d'étonnant à ce que la raison pure ou pratique soit hors d'état ici d'en remontrer plus qu'elles ne sont comme organes. À ce titre, comme le reste, aussi intrinsèquement spécularisé que peut l'être un solide quand il est de révolution, soit relevant d'une géométrie intuitive et pas révolutionnaire du tout. Je remarque ici que la révolution de quelques commentaires que l'est pour lui la française serait pourtant à présent réduite à ce qu'elle est pour Chateaubriand. Retour au maître, Issel, la grande, la nôtre, ne faisant que précipiter. Pour un historien Tocqueville digne de ce nom, les idéologies de l'ancien régime, voire pour un autre Taine, une folie bonne pour un internement précautionneux jusqu'à ce qu'elle se calme, sans parler de la débauche rhétorique censée la disqualifier. Il en serait ainsi si Marx ne lui avait donné ces types de structures. À la motiver du discours du capitaliste, avec la découverte qu'il comporte de la plus-value comme foreclose dans ce discours, mais animant de ce fait la conscience de classe, soit permettant l'œuvre politique dont Lénine fait le passage à l'acte. C'est en quoi mon analyse de Freud réitère Copernic d'un autre biais de métaphore. Freud, dans l'inconscient, découvre l'incidence d'un savoir tel qu'à échapper à la conscience d'être hors prise de son recensement, il ne s'en dénote pas moins d'être proprement articulé, structuré, dis-je, comme un langage, impensable autrement en les effets dont il se marque, mais aussi bien n'impliquant pas quoi que ce soit qui s'y connaisse. Au double sens de s'y connaître, comme s'y connaît l'artisan complice d'une nature à quoi il naît en même temps qu'elle, et de s'y reconnaître à la façon dont la conscience fait croire qu'il n'est pas savoir, qu'il ne se sache être sachant. Quel est ce savoir dit inconscient dont ce sens sont aussitôt se sanctionne. Une fois de plus, c'est l'impossible qui le rejette dans le rêve. S'il existe, il suffit à disqualifier l'illusion d'une connaissance simple, non sans qu'elle subsiste, mais comme mirage contredit. Connaissance est fonction de nature, qui ici ne se sait que d'une dénaturation produite en rapport avec ce savoir par une suite de rétorsions. Les premières affectant celui-ci, ce savoir, qui produisent des refoulements de signifiants. La figure négative, évidemment, s'y ajoutant la condition de représentabilité à quoi tout matériel qu'il soit, le fait signifiant réduit. Cependant, quand revient rétorsion expressément articulée, c'est ce qui fait sa valeur, le démenti, je souligne le terme qui répond à Freud, faire le gnome, le démenti qu'apporte l'inconscient de ce qui pourrait, de ses effets que je viens de dire, s'interpréter d'un sens, par quoi l'inconscient ne jubile que du non-sens, du nonsense, exactement. Tout le monde ne prend pas à la nature qu'à éviter sa rencontre. Je ne rappelle que pour mémoire que pour les ignorants, c'est Platon lacanien qui me doit être inscrit sous la rubrique des formations de l'inconscient. Et je souligne, il faut que je les complète ces bateaux, cet as de soi rejeté. Ce jeu de l'insistance du savoir inconscient, à partir d'un sujet concevable, dans prononcer ce que Freud appelle le verdict. Rappelez-vous ces termes, jugement, rejet et condamnation. Que, comme je le dis, fortuit du symbolique, ce savoir reparaît dans le réel de l'hallucination. C'est à fixer ces termes correctement que j'ai dû me rouler aux pieds de ceux dans cette expérience quotidienne, sans les arracher à des rêves pour eux assez présentables pour qu'ils continuent à dormir. Il suffisait de soucier d'un réveil éventuel, il fruste à ma réalité pour qu'il me rejetasse de ses délices symboliques. Tout revenu dans le réel de l'ENS. De l'étang donc, vous pouvez faire ça avec un G si vous voulez, de l'étang de l'école normale supérieure, je m'entendis dès le premier jour réellement sommé de déclarer quel être j'accordais à tout ça. je répondis que la question me paraissait impropre, que je ne me croyais pas redevable à l'endroit de mes auditeurs d'aucune ontologie. C'est qu'un erreur à ma logique, je faisais l'honteux de son honteux. J'ai les raisons des jours témoignent. Je n'irai pas par quatre chemins, ni par forêt à quatre arbres. L'être ne naît que de la faille que produit l'étang de ce dit. Formule qui relègue l'auteur à mettre l'acte en son moyen. Il faut alors à cet étang le temps de se dire. Ce fond du temps est proprement ce par quoi l'être nous sollicite en l'inconscient. C'est bien de l'être que répondit. Parfois qu'il faudra le temps, mais entendez, je joue décidément du cristal de ma langue pour réfracter le signifiant, pour décomposer le sujet. Il faudra le temps. C'est du français que je vous cause, hein, j'espère pas du chagrin. Ce qu'il faudra du faux du temps, dit la faille dont je suis parti. Sur le terme ce qu'il faudra que je fasse. Et bien que l'usage d'une grammaire, dans une grammaire faite pour prévenir les Belges de leur belgicisme, c'est un livre que j'explique beaucoup, n'en soit pas recommandé, ce faudra lire que la grammaire autrement faudrait à ses devoirs. Si tout s'en faut qu'elle en soit là, vous touchez le secours de la preuve que c'est bien du monde en français. Le falloir passe à la nécessité. Cependant, l'est-tu, car ça se disait comme ça, est-obus, est-obus temporis dans l'occasion, que l'estuaire est parti, si je puis dire, à la dérive de l'estuaire, du vieux français. Inversement, ce falloir retourne à la faille, pas par hasard, de la modalité subjonctive à la défaillance, à moins qu'il faille. À quel niveau pour l'articulation de l'inconscient trouver l'attache du dire à l'être? Assurément, ce que du temps lui fait étoffe n'est pas d'un cours imaginaire. Mais disons qu'elle soit textile, faite de nœuds qui ne veulent dire que des trous qui s'y trouvent. Ce niveau n'a pas dans soi, sinon ce qui en soi le masochisme. C'est précisément ce que le psychanalyste relève que le relayer d'un quelqu'un. Il va supporter le faux du temps aussi longtemps qu'il faudra pour qu'à se dire les temps fassent être quelque chose. On sait que j'ai voulu, quelques mois, introduire l'énormité de l'acte psychanalytique. Ce quelqu'un, par le psychanalyste relevé, est ce dont l'être à venir se détermine selon la façon quelqu'un définit la voie du vrai. Ce fut le fait des stoïciens, non sans cohérence, non. Il n'y a, il n'y a qu'un savoir à faire la médiation du vrai. C'est la logique qui n'a démarré du bon pas qu'à faire du vrai et du faux de cours signifiant. Des lettres, grand V, grand F, ou comme on dit encore, des valeurs. Ce fut le fait des stoïciens, non sans cohérence avec la morale d'un masochisme politisé. Le refus de la mécanique grecque ont barré l'accès à la logique mathématique de seulement a pu s'édifier un vrai de pure texture. C'est pourquoi les stoïciens purent être harcelés par les sceptiques dont la critique ne se soutient, paradoxalement, que de la supposition d'un vrai de nature, même s'ils le tiennent pour inaccessible. C'est justement ce que l'expérience psychanalytique réfute. Chacun en apprenant que le vrai de nature se résume à la jouissance que permet le vrai de texture. L'intervalle dont quelqu'un joue à y intervenir dans la psychanalyse n'est figurable que de la distance de l'écrit à la parole. Ce n'est que l'écrit qui a pu se sustenter une logique, la logique dite mathématique, dont les sceptiques auraient la surprise de constater qu'elle obtient l'assurance irréfutable du vrai sur des assertions aussi peu vides que, par exemple, un système défini comme de l'ordre de l'arithmétique n'obtient la consistance d'obtenir toujours des partages du vrai et du faux qu'à se confirmer d'être incomplet, soit d'exiger l'indémontrable de formules qui se vérifient ailleurs. Ou encore, cet indémontrable relève d'autre part d'une démonstration qui en décide indépendamment de sa vérité. Ou encore, il y a un indécidable qui s'articule de ce que l'indémontrable ne saurait être même décidé. Les coupures du texte articulatoire de l'inconscient doivent être retenus d'une telle structure, à savoir de ce qu'elle laisse tomber, car voici qu'une fois de plus, je vais du cristal de la langue tiré parti, à remarquer que ce chut d'être falsus du latin, ligne fausse, certes, fort distincte, en son sens, et pour t'opposer au vrai, à notre faux du temps et à son failli, parce qu'il est le participe passé de faillere, dont les deux verbes faillir et falloir proviennent chacun de son détour. Et observez, je ne fais intervenir l'étymologie qu'en soutien de l'effet cristal homophonique. Aussi de la dimension du faux à se corriger quand il s'agit de l'interprétation, c'est justement d'être falsa, même pas bien tombé, une interprétation opère de ce que l'être soit à côté. Ne pas oublier dans la psychanalyse le falsus est causal de l'être en procès de vérification. sans doute à son époque, n'avait pas à connaître plus en ce champ que la pluie de Brentano, qui est parfaitement repérable, quoique discret, dans un texte comme celui de la Fernaio. Il suffirait à indiquer où quelqu'un fait le poids du côté de l'analyste, même si je ne forçais pas la voix enfin à sa pureté de l'union logique. Mais s'y ajoute chez Freud ce trait que je crois décisif. La foi unique qu'il faisait à ces juifs dont par ailleurs il repoussait ce qu'il faut bien noter de sa désignation d'aversion, l'occultisme. Cette foi unique leur était faite de ne pas faillir au séisme de la vérité. Pourquoi eux et pas d'autres? Sinon de ce que le juif et Freud y a fini comme eux. C'est celui qui de tous les siècles à partir du retour de Babylone où qu'il soit allé à Suzy et que le Midrash est sa voix. Midrash, c'est ce que je vais vous dire. Pour avoir le livre du style le plus historique, le plus antimythique qui soit, la Bible. Le peuple hébreu l'interroge du pied de chacune de ses lettres et de celle-ci seulement, d'une inflexion de désinence, d'un jeu d'interversion, d'un voisinage même pas tenu pour préconçu, interroge le livre, par exemple, ce qu'il n'a pu dire de l'enfance de Moïse. Pourquoi dans cet intervalle où Freud si bien a vu jouer le feu, lui fallait-il pousser la mort du père et une face contentée? Autre écrin de cristal, seulement de la faute du temps.